Les trésors de la radio avec Jean-Marie le samedi sur Fréquence Amitié Vesoul. Le samedi de 10 à 11 sur Fréquence Amitié Vesoul, les trésors de la radio avec Jean-Marie.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Silence dans les rangs.
D'accord.
C'est les trésors de la radio, comme tous les samedis matins de 10 à 11. Et aujourd'hui, on a un invité que Jean-Louis va vous présenter. Et Hervé aussi, Hervé Faudeau, Jean-Louis Imbert, est l'invité. À vous, messieurs.
Merci Jean-Marie, bonjour à tous, bonjour à toutes. En fait, oui, ça fait 1 plus 1, ça fait 2 invités.
Hein. Oui.
Donc, il y a en face de moi Hervé qui est professeur en retraite, et mon frère Jean-Baptiste qui vit habituellement à Jérusalem, qui est de passage à Vesoul, et dont la profession est d'être professeur et archéologue. Voilà, donc comme le sujet est brûlant, l'occasion est bonne d'évoquer un peu ce qui se passe au Moyen-Orient, si vous avez envie. Puis on fait attention parce que... Enfin, moi, je voulais faire une déclaration liminaire. Toute ma vie, j'ai lutté contre le racisme. Donc je veux dire qu'au départ, quelles que soient les conversations, dans ma tête, c'est ancré fort. Le racisme, c'est une atteinte contre l'intelligence, contre l'humanité.
Point à la ligne. Son intégrité aussi.
Voilà. Donc, est-ce que vous voulez vous présenter, Jean-Baptiste, tu veux dire 2 mots ?
Assez près du micro, Jean-Baptiste. Alors, Jean-Baptiste, vous rentrez, vous arrivez, vous êtes en ce moment en Palestine, non ?
Oui, j'habite Jérusalem, en Palestine, effectivement. Oui, je suis de passage à Vesoul et je suis absolument ravi d'être avec vous. On va pouvoir un peu évoquer le beau soleil de l'Orient et puis le sang qui coule. Quoi.
Et puis Jean-Baptiste, tu es déjà venu à la radio, hein, il y a quelques années.
Oui, je crois que pendant le Covid, j'ai dû passer. J'étais ravi d'être à Vesoul, Et je ne sais plus de quoi on avait parlé, mais enfin...
De ce que tu faisais là-bas, en tant qu'archéologue...
On peut recommencer, c'est la même chose.
Je crois qu'on avait parlé des fouilles à Gaza que tu avais entreprises il y a quelque temps.
Oui, on pourrait en parler un petit peu, comment on a pu poursuivre dans une situation extrêmement complexe, hein, difficile... Mais on a réussi à faire quelque chose de très bien. J'en parlerai peut-être tout à l'heure si ça vous intéresse. Mais c'est même assez exceptionnel dans la mesure où ce qu'on a fait a été un peu le modèle. Il y a des gens qui ont essayé en Irak ou au Liban d'essayer de faire la même chose. Donc c'est intéressant.
Alors Hervé, est-ce que tu peux nous dire ta situation actuelle ? Parce que si je ne m'abuse, tu es un jeune retraité.
Oui, c'est ça. Oui, je suis retraité. Je suis déjà intervenu à ce micro. Et, voilà, et aujourd'hui, je suis vraiment content de participer puisque par ton frère, donc, hein, Jean-Baptiste, quoi, c'est à la fois un archéologue. Donc on travaille un petit peu sur les mêmes chantiers. Lui, il est quand même acteur quand même des recherches, je dirais, verticalement dans le passé. Et en même temps, il est témoin du présent. Quoi. Donc du coup, c'est presque parfait, c'est presque une synthèse parfaite de la situation qui convient de démêler aujourd'hui, quoi, le présent et toutes ces racines quand même historiques très très profondes qui sont revendiquées de part et d'autre, et pas simplement d'un point de vue religieux, mais aussi d'un point de vue politique, sur les racines des peuples, sur leur formation en tant que nation, etc. Cette question-là, elle remue tous les sujets qu'on peut étudier quand on étudie les communautés humaines, de part y compris la référence aux Terres Saintes, voilà. Alors, Terre Sainte, maintenant, il faut le comprendre presque aussi comme sainte, C-E-I-N-T-E, quoi, c'est-à-dire une enceinte, tellement ces questions-là enferment les gens et les opposent les uns aux autres. Et ça serait bien qu'avec ton témoignage, on puisse comprendre un peu mieux au terme de cette émission.
Oui, ce qui me frappe beaucoup, on pourrait dire en phrase d'introduction, ce qui me frappe beaucoup, c'est que tout le monde parle de Gaza et personne n'y est allé. Alors, on se demande quelle est l'autorité dont ils peuvent se revendiquer. Ils parlent de quoi ? Donc ils ne font que répéter ce qu'ils ont entendu, mais ils n'ont pas vu ce qu'est Gaza, ils n'ont pas vécu à Gaza, et leur avis n'est pas autorisé. Je me pose en autorité.
Mais ça fait, Jean-Baptiste, ça fait longtemps que tu es là-bas, à Gaza ? Combien d'années ?
En Orient, 54 ans.
Oh là, oui.
Mais à Gaza, j'ai travaillé à partir de 95, donc ça fait 25 ans, quelque chose comme ça, oui. Il n'y a qu'à compter.
Oui, c'est des dizaines d'années, oui. Ça,
là-bas, tu es bien accueilli, les gens sont sympas, gentils, je veux dire. En tant que Français.
Moi j'aime beaucoup Gaza, c'est sûr. Comme Français aujourd'hui, c'est peut-être même un peu difficile. J'hésiterais à entrer à Gaza d'une manière franche aujourd'hui, parce que la France a mauvaise réputation.
Ah bon ?
Oui. La France a pris un parti qui n'est pas juste, un parti où on ne condamne pas le fauteur de troubles, ou du moins on ne le désigne pas. Quand on écoute les autorités françaises qui en parlent, je ne nomme personne, mais ils ne nomment pas les fauteurs de troubles. Ils n'y arrivent pas. Parce que je dis tout le monde sait quel est le fauteur de troubles, ou pas tout le monde, mais on n'a pas le droit d'en parler. C'est ça le problème.
La difficulté, c'est qu'il y a, ce qui m'a interpellé, c'est qu'on constate que tous les politiques et tous les médias français vont tous dans le même sens. On a l'impression qu'il y a un langage obligé. Maintenant, il y a quand même quelques voix qui s'expriment pour constater les violences des deux côtés, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas parler en toute sérénité, parce que c'est pour ça que j'ai fait cette déclaration préliminaire tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas parler sans être accusé d'un côté ou de l'autre d'être un raciste ou de ne pas être objectif,
d'être partisan,
voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc Hervé, moi je connais ton sens de la réflexion. Ce que j'aurais voulu savoir, c'est pourquoi ce conflit qui était territorial au départ s'est transformé en une espèce de guerre ethnique, presque une guerre de religion.
Ouais, la religion a toujours été plus ou moins présente dans ces terres-là. J'ai évoqué tout à l'heure la Terre Sainte, ne serait-ce que Jérusalem, que tu dois connaître, sur laquelle tu pourrais peut-être apporter des précisions à ce que je veux dire. Moi, je survole ici. Jérusalem, c'est quand même le lieu des trois religions monothéistes occidentales, on va dire, c'est-à-dire par ordre d'apparition à l'écran, le judaïsme, le christianisme, l'islam. Ils ont tous des lieux de référence. C'est le Dôme du Rocher, c'est le Mur des Lamentations, c'est le Saint-Sépulcre. À Jérusalem, les trois religions pourraient se confondre et dialoguer. Il faudrait plutôt inverser le problème, voir pourquoi les religions sont devenues une espèce d'accélérateur de troubles et de tensions de ces deux populations-là. Il y a une minorité chrétienne active, remarquable, par des gens courageux qui sont dans des convictions extrêmement ouvertes et généreuses. Mais globalement, l'affrontement concerne, la communauté, on va parler comme ça, la communauté juive et la communauté arabe. Derrière, les dimensions religieuses sont évidemment présentes, parce que chacun revendique effectivement sa légitimité. Alors le problème, moi je crois que le problème de départ, tu reprends après, le problème de départ, c'est, je dirais, à partir de 70 après Jésus-Christ, donc c'est la diaspora juive, et les communautés juives vont vivre dans un système synagogal, autour des synagogues. Mais l'idée d'un retour en Terre Sainte n'a jamais été vraiment absente. Elle se concrétise peu à peu avec la montée de l'antisémitisme en Europe occidentale, pas qu'occidentale, d'ailleurs les pogroms, c'est la Russie, c'est la Pologne, c'est toute l'Europe centrale. Et progressivement, ce courant se renforce et donne naissance à une théorie qu'on appelle le sionisme. C'est donc ça dérive, donc c'est le retour en Palestine, c'est le retour donc en Judée. Hein, et Sion, c'est une colline de Jérusalem. Donc le théoricien, c'est Théodore Herzl, donc il est contemporain de l'affaire Dreyfus, et il se rend compte que les États occidentaux, non seulement ne peuvent pas défendre les communautés juives, mais très très souvent sont acteurs dans leur répression. Et là, à ce moment-là, se forge dans la communauté juive l'idée d'un retour concret sur les terres d'Israël. Voilà. Et ils se servent là. Alors c'est là un objet de débat qu'il faudrait qu'on ait quand même. Quoi. C'est-à-dire qu'ils se servent quand même des références de David, de l'Ancien Testament, pour dire que le retour était programmé, que ils sont chez eux en Terre Sainte, et que l'Alia, c'est ça, quoi, c'est le retour là-bas.
Ce que je voulais dire, c'est que le sionisme au départ et l'OLP au départ, c'était des laïcs. Je veux dire, il n'y avait pas de problème. On parlait pas de. C'était une guerre territoriale. C'était pas une guerre de religion au départ.
Au départ, c'est pas. Il y a une dimension religieuse, je viens de le dire. Il y en a une. C'est sûr. Mais tu as raison. Au départ, c'est d'abord un problème d'installation, voilà, de deux communautés sur une même terre. Toute la question donc d'origine du conflit, elle vient de là. Donc c'est. Et on pourrait comme ça gagner du temps et arriver sur la situation actuelle. Au fond, quelles sont les hypothèses à la fois de départ et qu'on retrouve aujourd'hui ? C'est quoi ? C'est une communauté qui en exclut une autre, voilà. Ou alors. Un État binational, ça semble extrêmement difficile aujourd'hui, vu l'histoire, vu même les références théoriques. Voilà. Ou alors, c'est deux États séparés sur la terre de Palestine. C'est les hypothèses possibles. Voilà, donc, je ne sais pas si tu veux reprendre.
Eh bien, on va peut-être faire une petite pause. Oui. Hein, et ensuite, on continuera notre petit...
Oui.
Hein, de l'émission. Donc, c'est Inch'Allah avec Adamo. Un peu de là-bas.
On écoute l'abdomen.
Oui.
J'ai vu l'Orient dans son écaille avec la lune pour bannière. Et je comptais en un quatrain chanter au monde sa lumière. Mais quand j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher, j'ai entendu un requiem quand sur lui je me suis penché. Ne vois-tu pas, humble chapelle, toi qui murmures paix sur la terre, que les oiseaux cachent de leurs ailes, ces lettres de feu, danger, frontière. Le chemin mène à la fontaine qui voudrait bien remplir ton seau. Arrête-toi. Sa tendre épouse, son amie, qui repose sur les décombres, prisonnière d'une terre ennemie. Sur une épine de barbelé, le papillon guette la rousse. Les gens sont si écervelés. Et qui diront si j'ose. Requiem pour 6 millions d'âmes qui n'ont pas leur mausolée de marbre et qui, malgré le sable infâme, ont fait pousser 6 millions d'âmes. Inch'Allah.
Bienvenue sur Fréquence Amitié Vesoul 91.3 FM, bien sûr.
Et on retrouve nos invités, ben notre invité Jean-Baptiste, qui est interviewé par Hervé Faudeau et Jean-Louis Humbert. Jean-Baptiste Humbert.
Oui. On est sorti de 4 minutes d'un exposé qui rassemble toutes les questions. Je me trouve impuissant d'y répondre parce que c'est comme d'entrer dans une forêt, on ne voit plus l'horizon. Donc, effectivement, tous les propos que tu as tenus, je peux intervenir, mais je ne vois pas très bien même comment commencer. Je dirais, tout ce que tu dis sur le conflit religieux, le conflit raciste, la Terre Sainte, tout ça, pour moi, c'est des nuages. C'est des nuages qui cachent la vraie position du conflit. Le conflit, moi je dirais, le conflit n'est absolument pas racial. Le conflit n'est absolument pas religieux. Les religions ne comptent pas là-dedans. Ce sont partout des prétextes.
Ce sont des prétextes.
Oui, ce sont des prétextes. C'est-à-dire, c'est un mouchoir de poche sur la terre, hein, c'est pas grand, c'est vrai. Donc, alors, il y a des gens qui sont venus, qui ont volé le territoire. Alors, les gens qui sont les légitimes habitants du territoire ne sont pas très contents. Au fil des années, ça s'est gâté, ça s'est aggravé. Et aujourd'hui, on en arrive au conflit. Alors, les autres veulent encore plus de territoire. Non, ils veulent finalement tout le territoire. Et puis, il y a une poignée de gens qui se lèvent pour dire, écoutez, on va essayer de défendre ce qui nous reste. Donc, il ne s'agit pas de religion, il s'agit effectivement de qui va posséder le territoire. Alors, Israël se pose dans une posture un peu étrange, sans le dire, mais c'est pas compliqué. Ils veulent les territoires sans les habitants. Et quand on a compris ça, on a tout compris.
Oui, oui. Moi, quand je parlais de religion, je parlais pas de la religion en soi. La religion, elle dépend des usages qu'on en fait. Et ce que j'évoquais tout à l'heure, donc en aparté, c'était l'usage qui est fait, par exemple, du Hamas. Tout le monde sait, par exemple, que quand l'OLP a commencé à organiser le peuple palestinien, il a fallu, c'était un mouvement laïque, un mouvement de résistance dirigé par Arafat.
Justement, cette laïcité d'Arafat a fait peur à tous les autres pays arabes qui ne veulent pas de la laïcité.
Voilà, d'une part. Et d'autre part, pour Israël, comme pour les États-Unis avec Ben Laden plus tard, ça a été d'instrumentaliser précisément ce qui montait dans le courant identitaire musulman, dans l'islam, c'est-à-dire des courants fondamentalistes. Ici, c'est les frères musulmans. Ailleurs, c'est Al-Qaïda. Plus loin, ça sera Daesh. On assiste à une recrudescence de ces courants identitaires dans l'islam. Et le mouvement du Hamas, donc, est une variante locale des frères musulmans qui sont nés en Égypte, dirigés par Sheikh Yassine, a été favorisé donc par le gouvernement israélien. Il a réinstallé Sheikh Yassine pour produire de la division dans le mouvement palestinien et réduire Arafat à ce qu'il était à la fin, quoi, c'est-à-dire enfermé donc dans son palais donc dans son pouvoir donc en Cisjordanie. Et les religions, bien sûr, tu as raison, j'en profite pour ouvrir cet aparté et puis te rendre la parole. Elles sont ici complètement instrumentalisées à des fins qui sont des fins purement politiques de contrôle des territoires. Voilà. Là où il y a la terre, comme disait l'autre, il y a la guerre. Voilà. Et donc,
Oui. Moi, je continue d'être totalement convaincu et c'est très fort. Alors, les gens me disent, oui, le Hamas, le Hamas, on l'identifie à Daesh, on en fait une espèce de monstre sanguinaire. Toutes les atrocités qu'on montre, je fais une parenthèse, hein, toutes les atrocités qu'on montre ou qu'on raconte, on va démontrer assez vite que ce sont des fake news. Hein, c'est complètement inventé par la propagande israélienne. Moi, je dis, ma position, c'est pas compliqué. S'il n'y avait pas de sionisme, il n'y aurait pas de Hamas. Donc le Hamas n'est pas l'origine du conflit. L'origine du conflit, c'est la volonté d'Israël de contrôler le territoire.
Oui, mais là alors je me permets de te couper, parce que si tu veux, ce que tu dis, c'est un problème d'équilibre. C'est-à-dire que si on suit ton raisonnement, d'autres vont dire « Oui, mais vous dites ça parce que vous êtes antisioniste ou antisémite ». Par contre, si tu prends la proposition inverse, on va te dire bah, vous êtes raciste vis-à-vis des Arabes ou anti-islam. La difficulté, elle est là, c'est que y a une guerre d'informations. Et puis, le public dont je fais partie, on ne sait plus à quel sens vouer, si je puis dire. Donc, alors, c'est un peu compliqué d'évoquer ici qui ment le plus, qui ment le mieux. J'adhère à ce fait qu'on a des informations qui ne sont pas vérifiables, qui ne sont pas forcément bonnes. Maintenant, ce que j'aurais voulu que vous me disiez, c'est quels sont les intérêts, si on peut, parce que bon, faut pas non plus. Je veux dire, quels sont les intérêts de politique intérieure des deux parties. Alors, les deux parties. Bon, il y en a une qui est forte, c'est Israël. Il y en a une qui est faible, c'est les Palestiniens, parce qu'ils sont... Mais du côté des Palestiniens, il y a quand même les pays arabes, donc qui, voilà, qui ont peut-être un intérêt dans la guerre, je ne sais pas.
Oui, non. Moi, je ne crois pas, je ne pense pas comme ça. C'est même pas un problème arabe, puisque on assiste, hélas, à une désaffection du monde arabe envers la Palestine. Alors moi je vis là-bas, mais je circule même dans tout le Proche-Orient, donc sans enquêter, je ne suis pas journaliste, mais on discute, j'écoute les gens parler. Tout le monde me dit dans le monde arabe, et encore récemment en Arabie Saoudite, les Saoudiens me disent ben non, on aime beaucoup les Palestiniens. Non, bon, c'est le monde arabe, c'est nos frères, etc. C'est tout le discours est en place. Ils me disent, mais il n'y a rien à gagner à défendre la Palestine. C'est ça le problème. Il n'y a rien à gagner. Si on regarde, c'est vrai. Et les Palestiniens, moi, à Gaza, je discutais avec les gens du Hamas. Moi, je les connais. J'entends bien avec eux, moi j'ai travaillé avec eux, je fais pas de politique, je travaille là dans la terre, oui. Et alors, bon, on discute un petit peu, moi. Ils me disent, ben, c'est pas compliqué, tu t'assois sur cette chaise, là, puis tu te tais 5 minutes, puis après tu me diras qui nous défend. Et tu verras qu'il n'y a personne. Effectivement, alors le Hamas se trouve pris dans cette étroiture, dans ce pli, qu'ils sont maintenant désormais pratiquement les seuls, puisque l'OLP est à genoux, ils sont les seuls à vouloir défendre la Palestine. Donc je termine en disant, pour moi, ce n'est presque même pas une question politique. C'est une question tout simplement humaine. Le Hamas est là pour défendre ce qui reste de la Palestine. Alors, ils le font d'une manière violente, ils le font d'une manière qu'on n'attendait pas.
Ben, c'est pour ça, oui.
Mais ce sont des gens qui sont poussés à bout et on ne peut pas leur reprocher.
Non, puis il y en a qui disent c'est eux qui ont commencé, alors oui, c'est vrai.
Et oui,
le Hamas n'a jamais commencé, c'est ça qu'il faut arrêter de dire. Oui.
Gaza, c'est un incubateur, de ce point de vue.
L'enchaînement, il faut regarder là, d'où vient tout ce mécanisme. La Palestine n'y est pour rien. Les gens sont venus chez eux.
Alors, Jean-Baptiste, d'accord. Bon, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de gaz.
Si, il y a du gaz, justement.
C'était ça, en fait, je cherchais quelque part. Pourquoi justifier, expliquer cette tant de violence dans un endroit qui n'a pas d'intérêt a priori économique?
Mais on commence à comprendre, il faut se méfier parce qu'on est toujours victime des journalistes. Moi, j'aime pas trop les journalistes parce qu'on est, prisonnier de leur opinion. Oui, c'est
non,
ça.
Mais c'est déformé des fois un petit peu, quoi.
Mais on regarde. Qu'est-ce qui se passe à Gaza? Moi, je connais bien Gaza, je suis très impressionné. ils veulent vider la partie nord de Gaza. Ils organisent même, ils ont du culot, des couloirs humanitaires pour vider ce qui reste de population dans le nord pour les mettre dans le sud. Ils veulent la partie de nord de Gaza parce que dans les eaux territoriales à la hauteur de nord de Gaza, il y a les possibilités de forer le gaz.
Voilà. Oui. De même que dans les colonies en Cisjordanie, ils sont toujours situés sur les points d'eau. Israël contrôle 80% des ressources en eau de la Cisjordanie.
Même plus, par exemple. Il contrôle tout.
Je voudrais reprendre par rapport à ce que tu disais, Jean-François, tout de suite. C'est l'idée que, par rapport à aux dimensions politiques, moi je crois que les États arabes, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, les États arabes ne sont pas du tout, alors ils sont intéressés affectivement vis-à-vis de leur population, comme on dit la rue arabe, elle est pro-palestinienne, les pouvoirs politiques le sont beaucoup moins, ils sont intéressés par d'autres types de constructions. Quand on a commencé donc le 7 octobre, il a été dit à plusieurs reprises que ça brisait ce qu'on appelait les accords d'Abraham, qui avaient été signés sous Trump. C'était un processus diplomatique de reconnaissance d'Israël, de collaboration. On a eu exactement la même chose au moment du processus de paix d'Oslo en 1993. Pérez, à l'époque, c'était l'époque de Clinton où on multipliait les accords multilatéraux. Pérez avait un projet qui mêlerait, par exemple, l'industrie de pointe israélienne, la main-d'œuvre arabe, et puis les capitaux, le pétrole, l'énergie, les puissances pétrolières, pour créer une dynamique, une coopération économique de type régional, comme ça se fait un petit peu partout ailleurs, en utilisant les synergies. De ce point de vue-là, les États, ils sont plus intéressés. Quand tu dis qu'il n'y a rien à gagner pour les États à défendre les Palestiniens, c'est la pure vérité. Il n'y a absolument rien à gagner. Moi, ce qui me choque le plus par rapport à ça, je suis d'accord avec toi, c'est quand je disais là où il y a la terre, il y a la guerre, je pensais à cette chose-là. C'est que quand on regarde bien, au fond, l'histoire du 20e, du 21e siècle, parce que maintenant, il est quand même bien engagé, on est déjà au quart du 21e siècle, le temps passe vite, c'est que on a affaire à trois types de situations. Je termine par celle qui nous intéresse. Donc, celle que j'évoque tout de suite en premier, que je survole en tout cas, c'est ce qu'on a appelé donc le néocolonialisme, c'est-à-dire cette capacité à contrôler à distance, en contrôlant les commerces, les capitaux, les flux de marchandises, etc. En dehors, il n'y a même plus besoin, on va dire, de militaires pour contrôler et téléguider les pays. Il y a eu après, donc, dans un autre ordre d'idées, il y a ce que j'appelle, moi, les conflits post-impériaux, hein, qui résultent d'une disparition donc, des structures fédérales type soviétique, etc., où on se bat pour les frontières. On voit ça en Géorgie, on voit ça aujourd'hui en Ukraine, on a vu ça, dans le Caucase, etc., etc., en Yougoslavie, etc. Ça, c'est le deuxième type de conflit qui résulte, en gros, de structures politiques héritées d'une époque antérieure. Et puis, il y a... Peut-être que je l'ai menti, mais je ne vois pas ailleurs d'autres cas que la colonisation telle qu'on l'a vécue à partir du 18e, 19e siècle dans le reste du monde par l'Europe. C'est-à-dire que là, et même, on emploie les termes, quand on parle de la Cisjordanie, on parle des colonies, au sens où les Romains installaient des soldats sur les terres des barbares qu'ils avaient conquis pour y mettre des agriculteurs, les transformer en agriculteurs et en zone de contrôle. La seule région du monde où persiste cette forme de colonisation directe, brutale, avec la présence physique, le contact physique entre les colonisés et les colons, c'est la Palestine. Voilà.
Mais, oui, d'accord. Alors, j'en reviens au... Il y avait une guerre territoriale, effectivement. C'est ce que j'appelle une guerre territoriale. C'est-à-dire qu'on essaie de... on voit bien pourquoi le conflit, il est local, mais en même temps, il est internationalisé. C'est-à-dire, on dit dans les médias, d'un côté, il y a l'Occident, les États-Unis, l'Europe, et de l'autre côté, il y a le Qatar, l'Iran, voire un peu la Russie par-ci, par-là. Donc il y a un intérêt quand même, il y a quand même un intérêt géostratégique, il y a quelque chose. Ou alors c'est simplement des réminiscences de la Bible, c'est pas possible.
Il y a le pétrole. Et le Proche-Orient, c'est le pétrole, aujourd'hui le gaz,
oui.
C'est le contrôle des énergies.
Oui. Et là-dedans, Israël est un pion important, je dirais, du point de vue américain.
Israël est l'espèce de
porte-avions.
De porte-avions, de coups de poing, de coins enfoncés en Orient, au Proche-Orient, pour déstabiliser, grâce à la déstabilisation, contrôler l'ensemble.
Oui. Le Moyen-Orient et le Proche-Orient sont des zones de tension, on va dire, depuis très très longtemps. Quand même, il y a eu la guerre en Syrie, etc. Il y a toute une série de conflits. On a parlé à ce moment-là...
Si tu réfléchis, depuis longtemps, c'est depuis que le pétrole est devenu une énergie.
Oui, ça fait un siècle, on va dire un depuis, siècle et demi. Un siècle,
oui. Ouais. Non, c'est depuis 1880-90, quoi. On a fait des moteurs à essence.
Oui, mais les premiers puits exploitables au Moyen-Orient, c'est les années 1920-1930.
C'est le partage de l'Orient. Hein, on partage l'Orient selon les puits de pétrole qu'on envisage.
Voilà, et les stratégies, ben, c'est les, comment ça s'appelle, les accords Sykes-Picot. Là, donc,
oui, donc on a découpé l'Orient entre les puissances pour contrôler les énergies.
Bon, alors ça, c'est... Bon, alors on pourrait... Effectivement, on en parlait tout à l'heure en aparté. On pourrait discuter jusqu'à demain matin pour feuilleter ce terrible épisode politique. Mais alors, et au niveau de la politique intérieure, est-ce que vous avez des infos? Parce que, quand même, ce besoin de faire la guerre, il a aussi une origine politique.
Bon, c'est extrêmement simple, c'est le sionisme. Le sionisme est une espèce d'idéologie née en 1860-1880, quelque chose comme ça, donc qui va poser un problème non seulement au Proche-Orient mais même en Europe. Moi je dis, j'ai une phrase un peu lapidaire, mais moi je dis dans le conflit Israël-Palestine, le problème, il y a un problème à régler. Il y a un problème à régler, mais le problème, il est israélien, il n'est pas palestinien. C'est le problème, c'est Israël qui veut s'installer en Orient, et faire un État, prendre des territoires, vider les habitants. Le problème, c'est la gourmandise politique israélienne,
sioniste. Oui, mais je voulais vous pousser un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, les médias disent que Netanyahou a besoin d'agitation pour sauver sa politique.
Ah, alors là, tu tombes dans la politique, on va dire, politicienne.
Ouais, oui, oui.
Bon, alors là, effectivement, conjoncturellement, disons que...
Toujours ridicule.
Voilà, oui, c'est bon... on l'expliquait, on en parlait tout à l'heure, enfin moi en aparté, le sionisme a réussi cette prouesse de produire quand même des fascistes juifs, quoi, quand même, c'est assez remarquable pour le souligner. Quand même, quand on connaît toute leur histoire, ils connaissent aussi les murs, ils connaissent aussi les enfermements de peuple pour les avoir vécus. Tu sais, il y a une formule de Hegel qui dit « la seule leçon qu'on peut retirer de l'histoire, c'est qu'on ne tire aucune leçon de l'histoire ». Et c'est particulièrement applicable ici, quand même. Oui.
Tu vas avoir les mêmes ennuis que le célèbre humoriste aussonnois de France Inter.
Ah non, pas du tout. Pourquoi tu dis ça?
Comment il s'appelle?
Oui, mince.
Il a parlé de Netanyahou dans les termes tellement...
Défavorables.
Qu'il s'est fait taper sur les doigts. Comment il s'appelle?
Alors, on va peut-être refaire une petite pause. On est embêtés. Ben,
on a retrouvé la musique.
Alors là, j'ai retrouvé en CD Enrico Macias qui nous chante Entre l'Orient et l'Occident. Non, c'est bon, ça pourra aller.
Comme je ne connais pas.
Oui, on verra.
Entre l'Orient et l'Occident, mon âme se promène. Entre l'Orient et l'Occident, vivent les gens que j'aime. Je ne sais plus quel pays choisir, tous les deux ont un peu de mon avenir. Je ne peux pas changer mon histoire, la musique a pour moi bien trop de mémoire. Entre l'Orient et l'Occident, j'ai planté mes racines. Entre l'Orient et l'Occident, le monde me fascine. Quand j'entends la flûte du désert, je repense au port où j'ai débarqué de l'enfer. Quand je vois le soleil sur Paris, je repense au jour où j'ai dû quitter mon pays. Entre l'Orient et l'Occident, mon âme se promène. Entre l'Orient et l'Occident, vivent les gens que j'aime. Le bonheur, je le prends quand il vient. Au hasard des rendez-vous de mon destin, le soleil, je m'en vais le chercher. Les oiseaux m'ont appris à le retrouver. Entre l'Orient et l'Occident, je fais de beaux voyages. Entre l'Orient et l'Occident, mes amours se partagent. À Paris, je change de quartier. En deux rues, je traverse la Méditerranée. Un décor, un parfum de santal, et mon cœur se berce d'un souvenir oriental.
Fréquence Amitié Vesoul, une radio libre pour une musique libre.
Alors, on va peut-être repasser encore une chanson pour faire une bonne petite coupure. Alors là, c'est quoi qu'on va entendre maintenant ?
Alors, c'est Bernard Lavilliers, comme je disais tout à l'heure. C'est son dernier album. Et le morceau s'appelle Métamorphose. Non, l'album s'appelle Métamorphose et le morceau, L'Espoir.
Sur la noirceur du soleil, sur le sable des marais, sur le calme du sommeil, sur mon amour retrouvé. Le soleil se lève aussi, et plus forte est sa chaleur. Plus la vie croit en la vie, plus s'efface la douleur. Pour ces semaines très noires, pour ces belles assassinées, pour retrouver la mémoire, pour ne jamais oublier. Il faut te lever aussi, il faut chasser le malheur. Tu sais que parfois la vie a connu d'autres couleurs. Et si l'espoir revenez, tu me croiras jamais. Dans le secret, dans l'amour fou de toutes tes forces, va jusqu'au bout. Et si l'espoir revenait. Sur mes doutes et ma colère, sur les nations déchaînées, sur ta beauté au réveil, sur mon calme retrouvé. Le soleil se lève aussi, j'attendais cette lumière pour me sortir de la nuit, pour oublier cet enfer, pour voir ce sourire d'enfant, pour ces cahiers déchirés, pour enfin que les amants n'aient plus peur de s'enlacer. Le soleil se lève aussi, le soleil se lève aussi, le soleil. Et si l'espoir revenez, tu ne croiras jamais. Dans le secret, dans l'amour fou de toutes tes forces, va jusqu'au bout. Et si l'espoir revenait. Pour la noirceur du soleil, sur le sable des marais, pour pour ta beauté au réveil, pour mon calme retrouvé. Et si l'espoir revenait, tu me croiras jamais. Dans le secret, dans l'amour fou de toutes tes forces, va jusqu'au bout. Et si l'espoir revenait.
Et voilà, c'était Bernard Lavilliers, son dernier, sa dernière chanson qu'il vient de créer, de chanter, quoi. Oui, et on retrouve Jean-Baptiste, notre palestinien, si on veut, non ?
Ah, oui. Non.
Français.
Oh, ça lui fait
au
plaisir.
Au bout de 50 ans, on a le droit d'être palestinien.
Oui.
Vraiment, tu fais ce que tu veux là-bas, tu voyages librement, t'es...
Non, je ne voyage pas librement, non.
Non.
Non. Ça, c'est tout un chapitre qu'il faudrait évoquer, oui, mais on n'a pas le temps. Ils ont découpé le territoire avec des barrières, des murs, des checkpoints. On n'arrive plus à circuler. Pour faire 15 km, il faut faire des détours. On prend 2 heures. Pour entrer à Gaza, il faut demander des permissions qu'on n'obtient pas. Non, c'est un pays qui est complètement bloqué. Hein, c'est bloqué complètement.
Oui, donc Jean-Marie, déjà, un grand merci pour avoir permis cet entretien entre nous trois, là. Entre nous quatre, puisque je te compte dedans. Ça me permet de parler, de demander les points de vue sur la situation en Cisjordanie, c'est-à-dire de l'autre côté, on ne peut pas dire l'État palestinien parce qu'il n'existe pas, mais la partie qui relève de l'autorité palestinienne, qu'est-ce qui se passe actuellement avec les colonies et tout ça ?
Il faut déjà rappeler que c'est un territoire occupé. La Cisjordanie. Mmh. Il fait partie des catégories de territoires occupés. Il y en a quelques-uns dans le monde, oui. Il y a celui-là, malgré tout.
Voilà. Oui, alors là, on rentre dans la politique. C'est l'histoire de cette guerre, quoi, finalement.
Oui, non, on peut résumer, parce que ce sont des phénomènes très, très complexes, difficiles à maîtriser, difficiles à expliquer aussi, parce que c'est un dossier très riche. Hein. Mais en résumant, je dirais que c'est la question de départ là, que tu posais. Est-ce qu'il y a un espoir de paix ? Évidemment, tout le monde pose la question après la tourmente, après tout cela. Est-ce que enfin on va déboucher sur quelque chose qui va décongestionner ? Est-ce qu'on va faire sauter le cadenas dont on n'a plus la clé ? Est-ce qu'on va arriver à... Ben non, on n'arrivera à rien parce que tout est complètement bloqué. Étant donné que si on veut faire la paix, il faut que les gens veuillent faire la paix, hein. Or, ou qu'on les oblige à faire la paix, mais les gens ne veulent pas la paix et personne ne les oblige à faire la paix. Donc c'est complètement bloqué. La solution à 2 États, bon, c'est toujours un argument politique des États, des chefs d'État, des grands groupements politiques européens ou américains, mais c'est uniquement une formule, il n'y a plus rien. À 2 États, c'est absolument impossible. Alors un État, moi, bon, je vois à peu près l'état des opinions en Palestine. Moi, je dis, c'est ma statistique, mais enfin, qui est un peu hasardeuse, mais disons 80% des Palestiniens disent, ben, puisqu'on ne peut pas faire un État à nous, faisons un État complet avec les Israéliens. Parce que il y a quand même, si on arrivait à faire un seul État, Israël-Palestine, c'est pas mal, parce que la Palestine profiterait de l'élan économique, hein, le développement industriel, le développement commercial dont bénéficie Israël, ça, c'est un acquis extrêmement précieux pour eux. Mais le problème, c'est que Israël dit surtout pas, on ne veut pas d'un État avec les Palestiniens. C'est le problème qui a été voté en 2018, là, qui a fait le tour du monde, mais les gens n'ont pas compris. C'est qu'Israël a voté une loi en disant Israël est un pays juif pour les juifs seulement, Et quand on sait que quand ils disent Israël, ils comprennent les territoires. Alors tout est complètement bloqué, c'est gelé.
Oui, c'est comme une espèce de guerre de 100 ans, toi qui étais prof d'histoire, Hervé. Hein. Ça a duré combien de temps exactement, la guerre de 100 ans ?
Ça a duré 120 ans à peu près, et sur les 120 ans, on s'est battu 60, si on enlève les trêves et tout. Bon, c'est pour ça qu'on appelle la guerre de 100 ans. Bon, on ne peut pas être mathématicien, historien parfois.
C'est vrai qu'on pourrait... Non, mais j'ai chanté un petit peu tout à l'heure, parce que c'est vrai que si on pourrait faire plusieurs discussions, plusieurs émissions, parce que le sujet est tellement... complexe et je veux dire qu'il nous touche affectivement et intellectuellement.
Moi je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit sur les deux hypothèses. La troisième hypothèse que tu n'as pas évoquée, c'est l'expulsion massive des Palestiniens.
Et donc, c'est le but du sionisme, voilà, c'est-à-dire les territoires sans les habitants.
Voilà, et je reviens là-dessus, juste une seconde.
Parlait des hypothèses de paix.
Oui, mais ça va confirmer tes craintes, parce que si tu veux, après 73, la guerre du Kippour, Sadat, le président égyptien, reconnaît Israël. Il y a des accords, c'est les accords de Camp David. Donc en 73, après la guerre du Kippour, chacun fait un pas vers l'autre. Lui, il reconnaît Israël et les Israéliens s'engagent à prendre des mesures en faveur d'une solution politique avec la Palestine. Il n'y a rien eu, il n'y a eu aucune suite. Sadat tenu sa promesse, pas Israël. Quand sur les accords de... le traité, ce qu'on appelait les accords d'Oslo, le processus de paix d'Oslo. On nous dit, voilà, le processus de paix, mais dedans, il n'y a aucune solution politique pour aboutir à un État. Je suis d'accord avec toi.
C'est noyer le poisson.
Oui, ils ont noyé le poisson et il n'y a rien. Et le mieux qu'ils ont voulu faire, les dirigeants israéliens, c'était de donner ce qu'on a appelé l'autorité palestinienne, c'est-à-dire quelque chose qui aurait l'autorité, le maintien de l'ordre, les lampadaires, etc., etc., mais surtout pas un État souverain. Donc bien, moi, je suis assez pessimiste. Oui, donc je reviens à ce que disait donc Jean-François. C'est quoi la situation en France, c'est ça
que... Oui, c'est parce que si on évoque l'histoire et la situation, c'est ce que je voulais dire. Comme le temps nous est compté, je voulais savoir si vous vouliez un peu évoquer l'état d'esprit en France, la relation entre les partis politiques sur ce douloureux problème.
Ce qu'on peut faire, Hervé, Jean-Louis, Jean-Baptiste, refaire une petite pause, et après, la réponse. Hein,
d'accord. Donc ça va nous permettre de cogiter.
Alors, c'est toi qui commandes, chef.
Alors, on va voir si ça marche, ce coup-ci. C'est bon, Jean-Louis ? C'est quoi la chanson ? C'est Leonard Cohen ? Non. C'est Alléluia.
C'est Jeff Buckley. Jeff Buckley.
Alléluia. 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 Well, baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor, you know. I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. There was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Et on retrouve Jean-Baptiste, Hervé et Jean-Louis. Et on est toujours en Palestine, à Gaza. Hein, c'est les, en direct, pas de là-bas, hein, d'ici. C'est Fréquence Amitié. Ça va, Jean-Baptiste ?
Ça va bien, ça va bien. Bon, évidemment, si on parle du problème qui se répercute en France, je vous laisse la parole, parce que, pour moi, la France ne comprend rien.
Ah bon ?
Pourquoi ? Vas-y.
Ben parce que les Français sont complètement noyés dans une information pléthorique, souvent fausse, contradictoire, et où le courant pro-sioniste l'emporte.
Alors, Hervé, toi qui suis l'actualité de près, comment tu vois le paysage politique français, en gros, quoi ? Parce que, bon, c'est pareil, c'est un sujet qui mériterait... un long débat.
Moi, je retombe un peu sur ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que le paysage politique français, il faudrait qu'il se calme un petit peu, et puis qu'il arrête un peu d'être dans une surexcitation ou dans des anathèmes comme ça, et très très rapides et très très souvent d'ailleurs non fondés. Moi, je souhaiterais d'abord, on l'a dit tout de suite, je souhaiterais que le gouvernement français s'engage évidemment autant qu'il le peut, autant qu'il est en son pouvoir de le faire pour la paix, pour d'abord un cessez-le-feu, mais ensuite la paix et des négociations politiques avec comme projet les solutions préconisées par Macron, celles de deux États, autant aussi crédibles qu'elles soient, aussi peu crédibles qu'elles soient, je souhaiterais que ça soit déjà ça. Le deuxième point par rapport à la situation française, moi je souhaiterais quand même qu'on mette fin à cet amalgame qui est assez ignoble entre antisémitisme et antisionisme. Le sionisme, c'est un projet politique, c'est le projet politique donc du retour des communautés juives dispersées sous l'Empire romain, sous Titus, de retour donc à la terre de Palestine pour former un foyer juif. Il a été reconstruit donc, suite à tous les événements tragiques donc, du 19e puis du 20e siècle, la montée des nationalismes. Le sionisme, d'ailleurs, il n'est pas que ça, mais il est aussi une version, on va dire la version juive de l'histoire juive, donc du nationalisme qui balaie toute l'Europe au 19e siècle, les identités nationales, les racines, etc. Ça, bon, on peut combattre ce projet-là sans pour autant être antisémite. L'antisémitisme, ça prend précisément les personnes non plus comme des personnes politiques avec un projet politique cohérent qu'on approuve ou qu'on n'approuve pas, mais ça les prend tels qu'ils sont biologiquement. Et il n'y a pas du tout, en tout cas dans ceux qui critiquent, que moi je connais, qui critiquent le sionisme, il n'y a pas du tout de critique de nature antisémite. D'ailleurs, même en Palestine, il y a des opposants à la politique qui est menée, il y a des partisans de la paix. On a le droit d'être aux côtés de ces Israéliens-là pour défendre un projet pacifiste, sans pour autant être accusé d'être antisémite. L'antisémitisme, c'est du racisme. L'antisionisme, c'est... Moi, par exemple, quand je me suis engagé en politique, il y a très longtemps de ça, c'était d'ailleurs la campagne pour libérer Mandela. Moi, je collais des affiches, je distribuais, etc. On n'était pas beaucoup à l'époque. Il a fini par être libéré. Quand je militais pour libérer Mandela, ou le faire libérer, c'était pas du tout un projet anti-blanc. Ça ne veut strictement rien dire, de mon point de vue. C'était simplement un régime politique fondé sur l'apartheid. Il s'agissait d'y mettre fin pour permettre à la communauté noire de rejoindre la communauté blanche dans un projet commun. Après, ils se débrouillent. Une fois que le projet est fait, c'est leur affaire.
C'est pour ça que j'ai tenu à faire cette déclaration préliminaire tout à l'heure en disant... Je ne suis pas... J'ai lutté toute ma vie contre le racisme. Je pense qu'il a même pour toutes les personnes qui sont ici. Je veux dire que pourquoi du jour au lendemain, on serait d'un seul coup devenu antisémite ? Bon, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Enfin, on commence à entendre des voix, mais je trouve que c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas des gens qui disent « ça suffit, on s'en tamponne de savoir si vous êtes juif ou musulman, machin. Ce qu'on veut, c'est que ça s'arrête. Il faudrait des voix fortes qui disent ça. Et jusqu'à présent, elles commencent peut-être à se réveiller, mais pas très fortement.
Oui. Oui. D'ailleurs, ces ambiguïtés-là, elles pèsent parce que la manifestation de dimanche dernier contre l'antisémitisme, moi, à titre personnel, j'aurais préféré que ça soit une manifestation contre tous les racismes.
Oui, pour la paix.
Voilà, ça a permis quand même à des gens comme Le Pen, des gens comme Zemmour, vous rendez compte, des gens comme Zemmour, de manifester contre l'antisémitisme.
C'est commun.
Oui, mais là, c'est une entourloupette parce que la grande manifestation qui a été concoctée, voulue, c'était pour manifester un soutien inconditionnel à Israël.
Oui.
Tu as raison, c'est pas une question de juifs biologiques, c'est une question de strictement politique, d'appui sur cette politique internationale qui soutient le coup de poing israélien en Orient.
Bien, alors merci Jean-Baptiste. Alors, on refait une petite pause ?
Oui. Oui, oui, puis je ne sais pas si... qu'est-ce qu'il nous reste comme temps, Jean-Marie ?
Ben, là, on a encore 10 minutes.
Ouais, okay. Ça nous permettra de conclure.
OK. Ouais. Donc,
C'est John Lennon ?
Ce qui est prévu, oui, c'est John Lennon. Imagine.
C'est un répertoire.
La radio qui bouge avec Fréquence Amitié Vesoul 91.3.
Et on va bientôt conclure l'émission, hein. Mais vous avez le mot de la fin, on a encore... Oui.
Le mot de la fin, c'est vrai qu'on... Alors, je redis une nouvelle fois, on pourrait débattre des journées entières parce que le sujet est très complexe. D'autre part, je pense qu'il faut faire attention parce que... c'est très difficile de parler de ce sujet sans être accusé par l'un des camps d'être un extrémiste de l'autre camp. Donc, moi, je voudrais que vous me disiez comment, quel langage on peut adopter pour dire là, on n'est pas d'un côté ni de l'autre, on est au milieu et on veut la paix, on veut que ça s'arrête.
Moi, c'est complètement bloqué parce que à cause des médias. Moi, je dirais pour essayer de commencer à résoudre le conflit en France, je parle du conflit en France, c'est d'encourager les gens et d'enseigner aux gens l'esprit critique, de ne pas avaler tout ce que leur offre comme de la vérité pure. Il faut exercer son esprit critique et essayer de comprendre ce qui se passe.
Oui. D'une part, l'esprit critique et d'autre part quand même une connaissance aussi, parce que l'esprit critique il peut ne s'exercer qu'à partir de connaissances précises et justes de la situation dont on hérite très 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 lourdement.
Mais je t'interromps, alors si tu veux, moi j'ai un slogan, je dis, je crois que c'est vrai, personne n'est capable de résister à la propagande. Aujourd'hui, c'est tellement bien fait que on est sous la coupe. Or, les Palestiniens, moi, je les connais bien, mais enfin, ils ne sont pas au fait des technologies, ils ne sont pas au fait des manipulations psychologiques ou dans les médias. La propagande palestinienne est très mauvaise. Ils ne savent pas se défendre. Or, ils ont en face une propagande israélienne qui est ultra sophistiquée, mondiale, qui martèle, qui cerne les cerveaux. On n'a plus de liberté de penser, on n'a plus le droit de penser. Si on les écoute, moi j'ai l'esprit critique parce que je les connais bien, je connais les deux côtés. C'est, quand j'écoute la propagande israélienne, elle est tellement bien faite que je me demande qui peut résister.
Oui.
Hervé, tu as deux mots à dire.
Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y a suffisamment de mobilisation pour imposer, y compris chez nous, un discours qui aille dans le sens de la paix. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Après, c'est difficile, t'as raison, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est difficile de vouloir rester neutre dans un conflit. Parce qu'un conflit de cette nature-là, quand même, quand on a à choisir, quand il y a un colonisateur et un colonisé, quand il y a de chaque côté du mur, moi, je ne sais pas, 15 jours à Tel Aviv, ce n'est pas 15 jours à Gaza. Je dis ce qui me passe par la tête, mais il y a une telle inégalité, il y a une telle injustice, il y a une telle souffrance de l'autre côté, il me semble quand même que tout esprit à peu près sensible dans le monde occidental ou ailleurs, hein, d'ailleurs, tout le monde est remué par ce genre de situation-là, devrait prendre parti au moins en faveur de la paix, à défaut de prendre parti pour un camp.
Juste un mot, parce que sans vouloir être autour de cette table, on n'est pas tous très jeunes. Je me demande, la jeune génération, les gamins de 18 ans qui eux, ne regardent ni télé, ni journal, mais qui sont branchés H24 sur leur smartphone, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Parce que là, je suis très inquiet pour cette. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, ils sont. On se demande qu'est-ce qu'ils reçoivent comme message.
Bien. Alors, c'est bon, Hervé?
C'est bon.
Tu as le mot de la fin.
Voilà. On remercie ceux qui nous ont écoutés. On les félicite aussi. C'est parfois assez difficile. Donc, voilà, à une prochaine.
C'est vrai qu'on a été très sérieux et un peu.
Oui, voilà. Mais c'est difficile. On
se retrouvera pour parler de la paix signée.
Voilà, une fois bien, la paix signée. Et pour voir si. Enfin, moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. À chaque fois qu'il y a eu des tensions extrêmement fortes, on s'est engagé sur un thème récurrent des deux États. Et un mois après, six mois après, on s'aperçoit que tout continue. Et ça, le pessimisme pareil. Que tu évoquais tout à l'heure, je pense que. Je ne veux pas dire qu'il est de mise, mais il est quand même à craindre.
Voilà, ben merci Jean-Baptiste aussi, donc Hervé, Jean-Baptiste, d'être venu à la radio ce matin.
On reviendra à Vesoul.
Et tu reviendras.
Oui.
Donc Jean-Baptiste Imbert et Jean-Louis, à toi la dernière chanson.
Alors c'est un morceau musical de Daft Punk.
Ouh.
Fréquence Amitié Vesoul, une radio libre pour une musique libre.